Dans le 70, strophe 1, 2 et 4. Livre de toi, source de
Chers amis, je dois penser à une portion dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite. Je lis du chapitre 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Annonce ces choses, exhorte et reprend avec toute autorité de commander que personne ne te méprise. Nous avons lu un paragraphe, oui, une portion, que nous connaissons certainement très bien. On a souvent, je crois, lu cette portion de l'Écriture qui a été inspirée à l'apôtre Paul pour écrire à Tite. Tite était un collaborateur de l'apôtre qu'il avait laissé à Crète pour qu'il agisse encore, qu'il serve encore pour le bien des croyants de cette île. Il avait déjà écrit dans le premier chapitre et encore dans la première partie du premier chapitre et dans la, la première partie du deuxième chapitre, il avait déjà écrit bien des choses très pratiques et très claires concernant les différentes personnes qui forment l'assemblée, former les assemblées, comme d'ailleurs aussi chez nous. Il y a des personnes, des frères âgés, il y a des sœurs âgées, il y a des jeunes sœurs, il y a des jeunes frères, il y a aussi différentes sortes, différentes positions sociales. Par exemple, il est parlé aussi de quelques esclaves qui existaient encore à l'époque. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'esclaves, mais nous avons quand même encore une situation que l'un doit faire ce que l'autre dit. C'est-à-dire qu'il y a un chef et quelqu'un qui doit travailler pour le chef. Alors, pour tout cela, Dieu a aussi ses pensées. Il a donné à l'apôtre Paul d'écrire tout cela. Et maintenant, dans les versets que nous venons de lire, il donne une certaine explication, en commençant avec le mot « car ». Tout cela, ce que je vous ai dit, je vous donne maintenant une raison pourquoi je vous dis tout cela. « Car », c'est ainsi qu'il commence au verset 11, « car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » La grâce de Dieu est apparue. Et c'est la grâce de Dieu qui est apparue. On peut se demander comment, où, quand est-ce que la grâce de Dieu est apparue? Elle est apparue à tous les hommes. Quand, où, comment? Elle est apparue dans une personne. Dans cette personne de laquelle nous avons chanté, auquel nous avons chanté. Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu ici sur la terre et avec lui, la grâce de Dieu est apparue. La grâce de Dieu qui est devenue visible, apparue, ça veut dire était devenue visible. On pouvait la voir dans la personne du Seigneur Jésus. On pouvait voir que Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'il a donné sa grâce et qu'il a donné son Fils, ainsi la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Tous les hommes ont pu voir. Et encore aujourd'hui, on peut voir la personne du Seigneur Jésus. Comment? Par la parole et par la prédication de la parole. Par les croyants, par les frères et sœurs qui peuvent parler de cette personne qui est apparue. Nous avons là d'ailleurs une certaine responsabilité que nous comprenons, je pense. Est-ce que nous faisons voir le Seigneur Jésus? Est-ce que nous faisons voir la grâce qui est venue à tous les hommes, apparue pour tous, apparue pour que les hommes puissent trouver le salut, puissent trouver grâce? Ah oui, pourquoi grâce d'ailleurs? Oui, parce que tous les hommes, nous inclus, nous étions pécheurs, et sommes pécheurs, il y a des pécheurs, et le jugement de Dieu pour les pécheurs, c'est clair aussi. C'est le jugement, c'est le jugement éternel. S'il n'y avait pas justement cette grâce de Dieu qui est apparue dans la personne du Seigneur Jésus, quel don qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus qui est venu ici-bas, il n'a pas seulement montré sa grâce dans sa personne qui était visible pour le peuple pour les Juifs, il pouvait le voir. Il pouvait voir, voilà un homme qui était tout à fait différent. Déjà dans ce qu'il disait, il était tout différent des autres. Quand il y avait des envoyés par les scribes et les pharisiens, et pour chercher à trouver quelque chose dans cette personne, Jésus, là, en cette personne, quelque chose qu'il pouvait prendre pour quand même accuser, pour dire « Ah, ça, il y a quelque chose qui n'est pas... » Ils sont venus, ils ont dit « Personne n'a jamais parlé comme lui. Il est tout à fait différent. Si l'on cherche quelque chose en lui... » qui pouvait être de laquelle ils pouvaient être accusés, on n'en trouve rien. Nous n'avons rien trouvé. Et c'était vraiment le cas. Mais la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu est apparue encore dans une manière beaucoup plus profonde encore, parce que le Seigneur est venu, et nous savons tout cela, heureusement que nous savons cela, que le Seigneur Jésus est venu pour être le sacrifice pour le péché, sur la base duquel, uniquement sur la base duquel, un pécheur peut être sauvé du jugement éternel. La grâce de Dieu est apparue à tous les hommes. Ah, c'était pour tous. Dieu n'a plus fait comme autrefois dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé surtout au peuple d'Israël. Il y a certaines autres personnes hors du peuple qui ont aussi entendu et ont aussi cru ce que Dieu disait. Par exemple, un homme comme Job, ou bien un homme comme Melchizédek, dont nous connaissons un peu, duquel nous savons aussi quelque chose. Et d'autres personnes, aussi des personnes qui étaient autour du peuple d'Israël, mais qui ont fait connaissance du Dieu d'Israël, de l'Éternel, et ils ont vu, voilà, c'est ce Dieu-là, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il faut que nous croyions en lui, et ils se sont même rangés du peuple d'Israël. Nous en trouvons dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes. Oui, mais tous les hommes peuvent être sauvés. Tous les hommes peuvent faire emploi de cette grâce. Dieu le dit encore aujourd'hui. Il dit encore aujourd'hui, si tu veux être sauvé, si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin d'être sauvé de cet état de misère et de cet état de perdition, j'ai donné le Sauveur, un Sauveur qui est là aussi pour toi. Voilà, c'est la première chose que nous lisons ici. La grâce de Dieu apparue à tous les hommes, dans la personne du Seigneur Jésus. Mais elle est apparue aussi, non seulement dans la personne du Seigneur Jésus autrefois, quand il y a plus de 1000 ans que le Seigneur était venu ici, que là, la grâce de Dieu est devenue visible pour chacun qui avait les yeux ouverts, mais la grâce de Dieu est apparue et fait quelque chose. Elle est toujours là encore. Dans la personne du Seigneur Jésus, il y a encore autre chose, beaucoup de choses que la grâce fait pour nous, nous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus, qui le connaissons comme notre Sauveur. Parce que alors la grâce de Dieu, elle enseigne quelque chose. Nous pouvons le comprendre de deux façons. Premièrement, la grâce de Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, nous enseigne. C'est lui-même qui nous enseigne. Deuxièmement, tout simplement la réalité, le fait que nous sommes des enfants de grâce, que nous avons reçu grâce, cela nous enseigne déjà quelque chose. Vous comprenez, j'espère, quand on a reçu grâce, on comprend. Maintenant, Dieu a le droit à une réponse. Et cette grâce m'enseigne, maintenant, il faut que je vive pour celui qui a montré cette grâce, qui a révélé cette grâce. C'est aussi un enseignement que nous pouvons retirer déjà du simple fait que grâce nous a été faite. C'est un acte, oui, un acte de... Quand on comprend ce que ça veut dire, que la grâce est venue pour me sauver, c'est une compréhension du cœur. Il y a aussi cette reconnaissance qui nous conduit à aimer et à servir celui qui a tout fait pour nous sauver. Voilà, la grâce nous enseigne. Et la grâce nous enseigne bien des choses qui sont maintenant expliquées ici. Dans quelques mots seulement, d'ailleurs, vous allez le voir. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Voilà la phrase. Dans cette phrase était intercalée encore une phrase participiale, vous me comprenez quand je dis ça. Parce que cela est clair, en même temps, renier l'impiété et les convoitises mondaines. En même temps, c'est-à-dire en faisant cela, nous pouvons vivre. J'espère que je me fais comprendre. Alors, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, deux choses. Renier, qu'est-ce que c'est, renier? Enfin, nous connaissons ce verbe renier. L'apôtre Pierre a renié son Seigneur, n'est-ce pas? Nous savons ça. Mais renier, ça veut dire aussi, tout simplement, et je crois que c'est ici le sens, dire un non très clair. Dire un non très clair, c'est renier. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, je ne le connais pas. Non, tu te trompes. Cette femme qui lui a montré, mais toi aussi, tu étais aussi un des disciples. Alors, il avait dit non. Mais ici, c'est renier l'impiété. Disons non à l'impiété. L'impiété, c'est vivre sans Dieu, sans prendre égard de Dieu. Alors là, pour un croyant, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est quand même possible. Quand un croyant vit dans le monde, ne lit pas la parole, oublie la prière, il peut même vivre sans avoir égard à Dieu, sans avoir égard à son Seigneur. Il est son Seigneur, mais il n'écoute pas. Alors, il ne renie pas l'impiété, mais il use l'impiété. L'impiété, c'est vivre sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait pas de droit. Alors, pour un homme qui n'est pas converti, c'est clair, c'est normal pour lui. Alors, pour nous, les croyants, ceux qui connaissent le Seigneur, nous comprenons bien. Cela, une vie sans notre Seigneur, non, jamais. Ça, c'est absolument impossible. Et nous disons un non très clair quant à une telle attitude. Et les convoitises mondaines, alors là encore, c'est dans le monde, c'est clair. Les convoitises mondaines, le monde aime toutes les convoitises, tout ce qui plaît à l'homme charnel, n'est-ce pas, à l'homme normal qui ne connaît pas Dieu, alors il aime les convoitises, il aime le plaisir, et même quelquefois des choses aussi qui sont immorales parce que c'est intéressant de faire. Ça, c'est la chair qui aime ça. Eh bien, pour un croyant, alors l'apôtre parle ici à Tite qu'il enseigne les croyants. Il n'est pas là en Crète pour enseigner les personnes, les inconvertis, mais il a ici le service vraiment auprès des croyants. Alors, il leur dit aussi, écoutez, reniez aussi la convoitise mondaine, les plaisirs qui se trouvent dans le monde, tout ce que la chair en vous, la vieille nature, ce qu'elle aime, dites aussi non. Dites un non très clair quant à cela. Et vous comprenez, quand nous lisons cela, nous voyons bien, cela me parle aussi à moi. Parce que nous avons toujours encore le vieil homme en nous, nous avons encore toujours le péché qui est en nous, nous avons encore toujours cette chair qui est en nous. Et cette chair veut exactement ces convoitises mondaines. Alors c'est pour cela que ces paroles nous parlent directement, et je pense aussi par là un cœur qui aime le Seigneur, et ce cœur dira non à cela. Parce que ça déshonore le Seigneur, ça déshonore notre Sauveur. Ça fait comme si notre Sauveur était venu en vain. Eh bien non, nous ne pouvons pas vivre comme cela. Alors, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, ça c'est donc en même temps, ça c'est clair encore. Et alors, nous sommes enseignés de vivre dans le présent siècle. Ah, intéressant, hein, le présent siècle. L'apôtre le dit d'une façon à ce que vraiment on comprend, c'est à chaque moment juste. Le présent siècle. Le présent siècle, aujourd'hui, pour nous, c'est le 21e siècle. Et le présent siècle, là, pour les Crétois, c'était le premier siècle, n'est-ce pas? Mais le présent siècle, le siècle dans lequel vous vivez, que dans ce siècle, c'est-à-dire vous aussi, nous aussi, que nous vivions dans le présent siècle, et comment? Trois adverbes sont donnés. Sobrement, justement, pieusement. Des attitudes convenables. Sobrement, pour commencer, je dirais tout simplement, sobrement, ça se rapporte directement à moi-même. C'est moi auquel le Seigneur, par sa parole, demande que je vive sobrement. Et sobrement, c'est ne pas vivre au jour le jour, on peut dire ça, oui, comme ça arrive, je vis tout simplement comme ça, sans réfléchir, sans prendre au sérieux ce que j'ai lu le matin. Le matin, nous disons la parole. Je pense que tout le monde va faire ça. Le matin, quand nous nous levons, quand la journée commence, nous lisons la parole et nous prions. Nous prions que le Seigneur nous garde de tout mal, de toute défaillance, dans les situations que nous devons vivre, que le Seigneur connaît déjà. Il sait déjà qui je rencontre, il sait déjà ce qui va arriver dans ma vie, de la journée. Il le sait très bien. Alors, je fais la prière quant à cela, et je lis la parole. Et alors, sobrement, ça veut dire aussi ne pas oublier ce que le Seigneur m'a dit. C'est-à-dire aussi que je réfléchis avant d'agir. Je n'agis pas simplement comme ça parce que quelque chose me passe par la tête. Ça peut nous arriver très souvent, très facilement, n'est-ce pas? À un moment donné dans notre vie, alors je pense, oh, je pourrais faire ça et ça, ça serait bien. Attention, est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que j'ai été vraiment sobre dans ce sens-là que je sais? Cela plaît au Seigneur ou cela ne plaît pas au Seigneur? Et là, alors, cette vie, donc, pour moi-même, je dois réfléchir avant d'agir. Ça, c'est une leçon très simple, mais elle est très effective quand nous sommes conscients du fait que le Seigneur peut vraiment nous montrer ce que nous devons faire à chaque moment. Alors, une vie de sobriété est aussi une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est conduite par le Seigneur. C'est une vie qui n'est pas une vie que je vis simplement comme un homme ici sur la terre, qui fait ce qui lui plaît, ce que sa chair en lui, le vieil homme, veut, parce qu'il est toujours actif. Il cherche toujours quelque chose. Un soi-disant plaisir. Sobrement, quant à moi-même. Donc, réfléchir à ce que le Seigneur veut pour lui plaire. Ça, c'est la sobriété d'un croyant. Deuxièmement, nous avons le mot « justement ». Justement, et il me semble que justement, c'est aussi l'attitude que nous prenons envers d'autres, envers nos frères, envers nos sœurs, mais aussi envers nos voisins et envers les hommes du monde avec lesquels nous avons des contacts. C'est vrai que nous avons des contacts avec eux. Nous voulons être justes, c'est-à-dire Juste dans le sens que personne ne peut dire oh, se plaindre. Que vraiment nous faisons ce qui est bon, aussi pour mon voisin. D'ailleurs, attention, mon voisin, il a aussi le droit, je me le dis moi-même aussi, il a le droit, je serai juste envers lui quand je lui dis, monsieur tel et tel, vous avez besoin d'un sauveur du Seigneur Jésus. Il a le droit à entendre ça de ma part. Il a bien des personnes qui ont certains droits. Et répondre aux droits que d'autres ont, ça c'est vivre justement. J'ai peut-être déjà dit une fois, mais il me semble que c'est pas sans importance que, par exemple, ma femme a des droits. Le premier droit qu'elle a, c'est que je l'aime. Que je l'aide. Que je suis là aussi pour elle, que je la comprends. Elle a ce droit. Dans un autre sens, peut-être aussi, le frère qui a une femme, il a aussi un droit. Et alors, peut-être la femme aussi, elle voit aussi, c'est ce que j'aimerais faire, parce que c'est quelque chose que mon mari peut attendre de moi. Tout simplement. Et mon fils, il a des droits. Le premier droit qu'il a, parce qu'il est mon fils, que je m'occupe de lui. Que ce soit pour la vie normale, mais surtout aussi pour la vie spirituelle. Il a le droit à ce que je lui dis, si tu ne te convertis pas, tu vas être jugé. Il a le droit à ce que son papa, qui est croyant, le lui dise. La même chose pour des personnes avec lesquelles j'ai affaire. Voilà, c'est vivre justement. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont certains droits. Si je veux vraiment remplir ces droits, avec l'aide du Seigneur, avec... Oui, aussi... Il me dit sa pensée, ce qu'il faut faire, ce qui est juste, qui serait juste envers mon voisin, je le répète encore. Alors, je vois. Ça, c'est la grâce qui m'enseigne. Moi, j'ai reçu la grâce. Et maintenant, j'aimerais bien que mon fils, que mon voisin, qu'il serait aussi un objet de la grâce de Dieu. Et le troisième que nous trouvons ici, c'est pieusement. Ce mot pieusement, nous comprenons bien, en allemand, on dit pour ce mot, si je le traduis simplement, c'est craindre Dieu, c'est vivre dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire de savoir que Dieu a des droits. Vous voyez, justement, et pieusement, ça donne encore, c'est une gradation, c'est encore plus, parce que Dieu a d'autres droits aussi quant à moi. Et je vais craindre Dieu, c'est-à-dire je vais toujours demander, si je vis pieusement, je vais demander qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui l'honore, qu'est-ce qui est pour sa gloire, qu'est-ce que je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour mon Seigneur. Ça, c'est la vie de crainte dans la crainte de Dieu. Et quand je lis la parole, et la parole me dit quelque chose, c'est aussi l'obéissance à la parole. Ça, c'est vivre pieusement. Il y a des personnes qui étaient pieux, vraiment pieux. Il est dit que de quelques personnes qui craignaient l'Éternel. Un exemple, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a rencontré quelques-unes des personnes. C'est très beau de voir. Il y a un Siméon. Il craignait Dieu. Il avait lu dans le livre de Moïse qu'un jour, le Messie allait venir. Et aussi dans les prophètes. Il avait lu ça. Il l'a cru. Et il a attendu. Et il était si clair dans sa crainte de Dieu, que Dieu même lui avait donné lui avait dit quelque chose, lui avait révélé quelque chose, lui avait dit, et toi, tu vas faire connaissance encore, tu vas rencontrer encore le Messie que je vais envoyer. Alors cet homme-là était aussi dans la dépendance de Dieu pour comprendre, maintenant, il faut que j'aille dans le temple. Et c'était juste le moment où Dieu voulait lui montrer son Messie, son Christ, le Seigneur Jésus, le petit enfant qui était apporté par Marie et par Joseph, les parents, dans le temple et à ce moment-là. Et c'est juste ce moment-là, dans sa crainte de Dieu, il avait compris, maintenant, l'Esprit de Dieu lui a montré, maintenant il faut que j'aille dans le temple. Et c'est là qu'il rencontre ce couple avec l'enfant Jésus. C'est beau, je trouve. Voilà une réponse de Dieu à la crainte de Dieu de cet homme. Un peu la même chose avec cette autre femme, cette prophétesse Anne, qui est là. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait 80 ans. 7 ans, elle était mariée et après, elle a parlé, elle a perdu son mari. Après, elle était donc comme veuve, elle a parlé à tout le monde, le Messie va venir, il va venir. Là aussi, à cette crainte de Dieu, dans ce grand intérêt pour savoir ce que Dieu avait écrit, elle comprenait, Dieu a dit ça, et la réponse de Dieu est qu'elle aussi, elle devait voir aussi le Messie que Dieu avait donné. Elle aussi a vu donc le petit enfant Jésus, le Christ qui devait être né et qui serait venu sur la terre. Il y a d'autres personnes encore, nous le savons et nous sommes très heureux de voir qu'il y avait des personnes déjà quand le Seigneur venait, parce que le peuple en général n'était pas vraiment préparé, nous le savons. Mais alors quelques personnes, et c'était des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Ayons aussi la crainte de Dieu. C'est quelque chose que, ici, l'apôtre Paul conseille. La grâce de Dieu nous enseigne. Vivez sobrement, vivez justement, vivez pieusement. Sachez que Dieu est au-dessus, sachez que Dieu a vraiment le droit de le craindre, c'est-à-dire aussi de l'obéir, de suivre sa parole et de lui croire en tout moment. De ce qu'il a dit, il le fera. C'est aussi vivre pieusement. Dans le présent siècle. Et encore une fois, un participe présent, attendant, en même temps, quand vous vivez comme cela, il y a encore quelque chose qui peut vous caractériser. Ce qui peut vous caractériser, c'est d'attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Attendre. Attendre. Et d'ailleurs, j'ai mentionné ces deux personnes hein, tout à l'heure, Siméon et Anne. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont attendu. C'est-à-dire, ils ont aussi réalisé cela. Ils ont attendu. Ils ont attendu non pas encore la bienheureuse espérance. Pour elles, c'était quand même aussi une bienheureuse espérance qu'elles connaissaient, qu'elles comprenaient. C'était que le Christ venait, que le Seigneur Jésus venait ici sur la terre. Pour nous, la bienheureuse espérance que nous attendons, c'est autre chose, nous savons. Quelle est notre espérance? Notre espérance, c'est que le Seigneur Jésus non pas vient pour la première fois, mais qu'il vient encore une fois. Non pas jusque sur la terre, mais qu'il viendra dans les nuages et qu'il viendra pour chercher les siens, chercher les croyants, chercher son Église. Voilà, c'est une bienheureuse espérance. Et nous attendons ça. Cette espérance nous réjouit, nous rend heureux quand on a une espérance et quand on sait cela va absolument arriver. C'est autre chose que dans le monde pense que l'espérance. Ils disent « Oh, j'espère que » quand ils ne savent pas si cela se réalisera vraiment. L'espérance chrétienne est tout à fait différente. L'espérance chrétienne est une chose absolument sûre. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je reviens, je viens bientôt. » Même à la fin de l'Écriture, nous le trouvons encore plusieurs fois. « Voici, je viens bientôt. » Et l'Église le croit. Les croyants le croient. Ils disent « Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. » Oui, c'est ça. C'est une confirmation d'un cœur croyant, d'un cœur sûr de ce que Dieu dit toujours la vérité. Et quand Dieu, le Seigneur Jésus, quand lui, il a dit quelque chose, il le fera. Et quand nous lisons, par exemple, Jean 14, quand le Seigneur Jésus dit « Je vais vers mon Père, mais je vais revenir, je vais vous chercher, afin que là où moi je suis, vous y serez aussi. » Nous le croyons, nous le savons, c'est tout à fait clair pour nous. Je pense que chacun de nous qui croit au Seigneur Jésus, qui est croyant, le sait et qu'il le retient et qu'il se réjouit et qu'il tient ferme cette bienheureuse espérance. Elle est bienheureuse parce que là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est pas un bonheur, mais le bonheur que nous avons d'être auprès du Seigneur Jésus, d'être un jour, quand il vient, dans la maison du Père. Quelle maison du Père ! Quelle espérance que nous avons, la bienheureuse espérance qui peut nous aider aussi dans les différentes difficultés que nous pouvons rencontrer, quand il y a toujours cette bienheureuse espérance devant nous. N'oublions pas. Peut-être ça sera aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Et le bientôt, nous ne le savons pas exactement ce que c'est. Mais quand le Seigneur le dit, c'est que nous croyons. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Et nous attendons vraiment. Faisons cela vraiment de cœur, en regardant à notre Seigneur, avec toute attente bienheureuse. Et puis, il n'est pas seulement parlé de la bienheureuse espérance, mais attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ah, la gloire ! Eh bien, attendre la gloire du Seigneur Jésus, il est parlé de lui, bien sûr, cette gloire, qu'est-ce que c'est ? Cela a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est quand le Seigneur Jésus nous introduit dans la maison du Père, quand il vient dans la maison du Père, il nous introduit dans la maison du Père, nous allons voir le Seigneur Jésus, et ça sera une gloire exceptionnel que nous ne pouvons pas encore nous représenter. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Le Seigneur Jésus en parle en Jean 17, par exemple. Là, il parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant. Donc, cette gloire du Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. Il nous montre quelque chose de sa gloire de Fils de l'homme, et il nous montre encore quelque chose. À la fin, il dit même, je veux que, quant à ceux que tu m'as donnés, qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. C'est une gloire qui appartient à lui seul, qui nous mènera à l'adoration. Voilà ce que nous attendons. La gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, celui qui était venu pour nous sauver. Et nous sauver Après, l'apôtre ajoute encore bien quelques détails. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais dire encore quelque chose à ce deuxième aspect de gloire. Je dis qu'il y a deux aspects. C'est le premier aspect que je nommais, c'est la gloire que nous allons voir, nous, ceux qui appartiennent à son Église, à son assemblée. Il va prendre son assemblée auprès de lui. C'est la première résurrection, et quand le Seigneur Jésus va venir pour chercher les siens. Nous savons bien par 1 Thessaloniciens 4 comment cela va se passer. Qu'il y a un cri et qu'il y a un instant. Alors c'est d'une part ceux qui sont dans les tombes, ceux qui sont déjà qui ne vivent plus ici sur la terre, ils seront ressuscités, la résurrection. La première résurrection, et alors aussi qui vivent sur la terre, seront changés, revêtront un corps de gloire, n'est-ce pas, pour aller dans le ciel. Voilà, première. Et puis, il y a encore un autre aspect de la gloire du Seigneur Jésus, parce qu'aussi, il viendra une fois encore sur la terre. Première chose, c'est quand le Seigneur vient pour nous chercher, il ne viendra que sur le dans les nuages, et il nous appellera vers lui. On l'appelle l'enlèvement. Mais après, le Seigneur Jésus, peut-être on dit, puisqu'il y a encore 7 ans, il y a encore peut-être quelque chose qui arrive, nous ne savons pas exactement combien de temps après, je ne vais pas en spéculer, faire des spéculations, mais un peu après, le Seigneur Jésus va venir, et il va venir sur la terre. Il va être reconnu aussi sur la terre. Sa gloire sera visible aussi sur la terre. Et enfin, aussi ici, les gens doivent connaître et savoir, celui qui a été crucifié, celui qui a été rejeté, celui qu'on ne voulait pas, il est vraiment le roi éternel, le roi pour le royaume, qui a un royaume de 1000 ans ici sur la terre. C'est lui vraiment, et la gloire du Seigneur aussi, dans ce sens-là, sera visible. Et nous pouvons aussi nous réjouir de cela. Pourquoi ? Nous ne sommes pas de ceux qui sont alors sur la terre, mais nous nous réjouissons à cause du Seigneur Jésus. Nous nous réjouissons, c'est une bienheureuse espérance, là, mais aussi l'apparition du Seigneur Jésus. On se réjouit parce que le Seigneur Jésus va enfin entrer dans tous ses droits qu'il a, qu'on ne lui a pas voulu donner quand il était la première fois ici sur la terre. Et ça, tout ce qui concerne notre Seigneur, tout ce qui sera encore dans le futur, dans l'avenir, ce qui le concerne, cela nous réjouit, ça doit nous réjouir. Non pas parce que nous avons quelque chose, nous allons le voir, oui, mais parce que le Seigneur aura quelque chose, parce que lui sera glorifié. Et les siens se réjouissent pour lui. La gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors c'est une expression qui est très, on pourrait dire, très complète. Le grand Dieu, le grand notre grand Dieu, notre Dieu, oui. Nous disons quelquefois aussi dans nos prières, notre Dieu, notre Père, c'est bien juste. Mais ici l'apôtre souligne encore notre grand Dieu, qui est si grand dans sa gloire, si grand dans son amour, si grand dans sa grâce, si grand dans ses conseils qu'il a pris déjà dans l'éternité. Notre grand Dieu est sauveur, et qui sait ? Ah, c'est le même lui, c'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu. Il est aussi le sauveur. Ici, dans cette expression-là, on voit que le cœur de l'apôtre Paul s'ouvre, pour ainsi dire, pour cette grande personne. en exprimant toutes ses qualités. Et Sauveur est Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom qu'il avait quand il était ici sur la terre. C'est lui qui apportait la grâce, c'est vrai, et qui apportait le salut, c'est là son nom. Mais il est devenu homme pour cela. Et quand nous lisons Jésus, c'est toujours aussi cet aspect que nous devons avoir devant nous. C'est lui qui est devenu homme, c'est lui qui est venu ici en s'humiliant, en s'abaissant jusqu'à être un homme. Lui, le grand Dieu, jusqu'à être un homme qui avait faim, qui avait soif, qui est devenu, qui se fatiguait, qui avait un cœur pour tous ceux qu'il rencontrait. Ce sont les gloires du Seigneur Jésus, comme le Fils de l'homme aussi, qu'il était prêt à se soumettre à toutes ces circonstances, à toutes ces situations dans lesquelles nous vivons aussi, nous. Ça s'est rappelé aussi. Et il est le Christ, Jésus-Christ. Il est aussi le grand roi, le roi selon Dieu, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a... il est loin de Dieu. Que Dieu a, oui, c'est ça, oui. Moindre, c'est le verbe, oui. Et il ajoute, quand il a dit ce nom, il ajoute encore quelque chose. Il doit encore absolument ajouter qu'il s'est donné lui-même pour nous. Alors encore une fois, il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est tout à fait donné. C'est ce que nous rappelons chaque dimanche matin, n'est-ce pas ? Qu'il s'est donné pour nous. Le Seigneur qui a dit, voici mon corps qui est donné pour vous, que je suis prêt à donner pour vous, à me sacrifier pour vous, qui s'est donné pour nous. L'apôtre dit pour nous. Oui, ça c'est quelque chose de tout à fait personnel. Pour lui, c'était vrai. Pour Tite, c'était vrai. Pour toi et moi, qui croyons au Seigneur Jésus, c'est vrai aussi. Le Seigneur Jésus, il est venu ici. Il m'a aimé, dit l'apôtre Paul. Il m'a aimé, s'est donné lui-même pour moi. En Galates, il dit ça. Il nous a aimés, s'est donné lui-même pour nous. C'est ce qu'il dit ici encore une fois, en Éphésiens 5, premier verset. Et le Seigneur Jésus est venu pour se donner, il a aimé son assemblée pour se donner et s'est donné pour elle. Il s'est donné aussi pour son assemblée. Trois aspects que nous pouvons voir. Le premier tout à fait personnel. Toi et moi, nous pouvons dire, le Seigneur Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Et il m'aime toujours. Le Seigneur Jésus nous a aimés. Nous pouvons le dire ensemble quand nous sommes réunis. Et nous pouvons penser encore autre chose. Le Seigneur Jésus a aimé son assemblée et il veut l'avoir auprès de lui. Cette assemblée qu'il s'est acquise, qui lui appartient. Et c'est ce que nous trouvons encore dans ce verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis. Il nous racheta. C'est-à-dire, racheter, c'est autre chose qu'acheter. Il nous racheta. C'est-à-dire, il nous racheta d'une façon à ce que maintenant, personne d'autre a encore un droit. Personne d'autre a encore un droit. C'est-à-dire, nous sommes achetés et uniquement pour lui. Et nous sommes sauvés pour être uniquement pour lui appartenir à lui. Nous sommes ceux que le Père lui a donné. Le Seigneur le dit aussi dans cette prière de Jean 17. Et il purifia. Ah, c'était nécessaire. Quand il y avait des hommes qui devaient lui appartenir, ça ne pouvait pas être des hommes qui étaient encore tachés de péché, qui étaient encore des pécheurs. Mais il fallait les purifier pour qu'ils soient adapté à sa sainteté. J'espère qu'on me comprenne quand je dis ça. Adapté à sa sainteté. Il purifia de toute iniquité, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est contraire aux pensées de Dieu, aux droits de Dieu, pour lui-même, pour lui appartenir, comme un peuple acquis. J'ai déjà peut-être dit une fois que le verbe « acquis » que nous trouvons ici en français, dans notre langue, on a une autre expression. Un peuple qui lui appartient en propre. Eigentum, c'est-à-dire de la propriété. Ma propriété, c'est la propriété du Seigneur Jésus. Nous devons le savoir et nous devons vivre aussi comme cela, que nous appartenons, lui appartenons, comme quand je possède quelque chose qui est à moi, je peux l'employer et le Seigneur, il nous a acheté, racheté pour lui, il peut aussi nous employer, il peut aussi nous demander de le servir, d'être là pour lui. Ce qui appartient est là pour lui. Nous avons chanté quelque chose dans notre cantique. C'est pour ça que j'ai dû penser aussi à ce court passage-là. Alors, comment est-ce que c'est dit? Oui, dans le quatrième verset, c'est aussi ce que le Seigneur peut attendre de nous. Que nous ayons un amour, vraiment un amour vrai pour lui. Seigneur Jésus, ne t'aimerions-nous pas, toi qui donnas pour nous ta vie. Mais il y a encore un autre cantique où il est parlé aussi du fait que nous lui possédons.
Possède notre.
Voilà, c'est à cela que je devais penser. C'est exactement ce que nous trouvons ici. Un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres, des œuvres qui plaisent au Seigneur, des œuvres qui plaisent à Dieu, des œuvres qui restent parce qu'ils sont faits sous la conduite du Saint-Esprit, parce que le Seigneur aime que nous les fassions, il les met devant nous. Par exemple, nous connaissons aussi Éphésiens 2, où ces bonnes œuvres sont préparées d'avance pour que nous marchions en elles. Voilà, pour ces bonnes œuvres, nous devons être zélés. Je pense que c'est une réponse que nous pouvons donner à notre Seigneur, que notre amour pour lui soit vraiment visible. Que c'est vrai qu'il possède notre cœur. Que nous demandons vraiment au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment est-ce que, Seigneur, je peux t'honorer ? Comment est-ce que je peux être une joie pour toi ? Il en est digne que nous faisions ça, que nous agissions comme ça, que nous vivions comme ça. » Et l'apôtre dit encore à Tite, ça, ce sont des choses importantes. Enseigne comme ça. Fais comprendre cela. Annonce ces choses. Exhorte et reprends avec toute autorité de commander. Là, l'apôtre le dit parce qu'il dit un peu avant aussi, je sais comment ils sont, les Crétois. Je sais comment ils sont. Alors, il est bien nécessaire que tu dises ça d'une façon, que tu insistes en cela, que c'est vraiment un commandement que tu dois leur donner. Peut-être il doit nous donner aussi comme ça un commandement, parce que aussi nous pouvons être aussi de ceux qui sont un peu réfractaires, oui, qui ne veulent pas tout à fait, bon, mais j'ai aussi ma tête, moi je pense encore ça, moi je pense autrement. Moi, je pense que ça, on pourrait faire ça. Eh bien, non. Voilà les principes selon lesquels nous pouvons vraiment être une joie pour notre Seigneur et Sauveur, qu'il nous accorde cette grâce.
La grâce nous enseigne cela. Faisons attention à cet enseignement de la grâce de notre Seigneur.
164. Jésus, fils bien-aimé du Père, qui t'es abaissé jusqu'à nous, à tous les enfants de lumière,
versets 3 et 5.
Dans la mélodie du cantique 68.
Oui, pour nous enrichir, toi le Dieu suprême, tu
dude.